Donc, nous accueillons ce soir donc Céline Minard pour un dernier roman qui s'appelle Faillir être flingué et qui est publié aux éditions Rivage. Qui est toujours, Céline Minard, vous êtes toujours une surprise en fait dans le monde éditorial et dans le monde de la littérature. Et donc là, vous venez avec un western. Déjà, pourquoi ? Pourquoi avoir écrit un western ?
Moi, je pense que ça courait un peu dans mes livres précédents déjà. Il y avait des personnages de western, il y avait une Calamity Jane dans Solo and Louise qui faisait une action jactée à Bonanza, une action jactée un peu musclée puisqu'elle était appuyée par quelques armes de poing en état de marche. Et il y avait aussi un Américain dans Bastard Battle qui lui était également armé de pistolets à couleuvrine tournantes. Ce qui était assez rare à l'époque, mais relativement efficace. Et je pense que c'était souterrain quoi. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Je pense à la lecture de Zébulon de Wurlitzer, où je me suis dit mais c'est en fait un genre littéraire qu'on peut prendre, reprendre et reformer ou enfin troubler quoi.
Vous avez une sorte de passion pour ces écrits de qui nous viennent d'Amérique. Enfin
oui. Oui et non. Enfin je suis une lectrice assez éclectique et j'ai lu pas mal de westerns. J'en ai lu très tôt d'ailleurs. J'en ai lu enfant et puis j'en ai lu récemment. Mais c'est plutôt tout ce qui sortait un petit peu déjà du genre qui a été vraiment qui a fonctionné comme piste ou comme déclencheur quoi. Après la littérature américaine, j'aime bien ça, mais enfin j'aime beaucoup les Russes aussi, certains Français, je trouve pas mal quand même. Et je peux lire, j'ai pas de frontières de lecture. J'aime aussi les modes d'emploi. Quoi.
Justement, on se demandait tout à l'heure qu'est-ce qui vous a, enfin, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré pour écrire Faillir être flingué, ou est-ce que vous, au contraire, vous avez pas voulu trop en lire ou trop en voir pour ne pas être influencé dans votre histoire.
Bah, à vrai dire, moi, je travaille beaucoup en immersion et des films, j'en avais vu de façon, je dirais, cultivée. Et puis, j'en ai revu de façon complètement inculte et en masse. Et c'est vraiment une espèce de bain, quoi. Il y a quelque chose du rythme qui se... de ce que ça dégage en général, de l'ambiante, quoi. Plus que... Je ne suis pas du tout une érudite ni en cinéma ni en littérature sur le western, ou c'est pas du tout mon style d'approche, c'est plutôt plongeon et donc il y a cette phase du travail qui est un pré-travail en fait et qui est comment faire monter la pression dans la cocotte minute. Une fois que la pression est là, j'arrête toutes ces lectures trop proches et là je vais plus loin, enfin ailleurs, et quand j'écrivais ça je lisais plutôt Reznikov, les témoignages qui venaient de sortir chez POL, plutôt Robert Krillet, plutôt des poètes de toute façon, de façon très fragmentaire aussi, et puis des choses comme John Muir, des choses un peu là, mais un peu loin.
Mais justement, quand même dans le western, il y a quand même tout un plein de codes à respecter, j'imagine. Est-ce que pour vous c'était une contrainte, ou est-ce que au contraire, vous avez joué avec ces codes.
C'était pas une contrainte parce que je supporte pas l'idée de contrainte. C'est pas quelque chose qui me fait travailler. Ce serait quelque chose qui m'empêcherait. Mais par ailleurs, je me sens pas obligée de passer par telle scène de saloon ou tel duel dans tout ça. Mais comme ma cocotte minute est déjà pleine de western, et pas de whisky. Qui sous pression, pleine de western, y a évidemment on les a intégrés, puis de toute façon on les connaît, les codes du western, c'est trois quatre grands axes en fait, c'est toujours à peu près la même chose, c'est des histoires de loi, de partage, d'honneur, et de, bon, en gros, et de convoyage, et c'est tout, c'est pas grand chose, et puis après il y a une tonalité, et Et c'est tout. Moi, je me glisse là-dedans, mais à chaque et peut-être aussi à chaque nœud de ou à chaque repère, je l'écarte ou je le bouge un peu ou je. Enfin, il y a quelque chose qui se déplace, quand même, qui est déplacé. Et c'est plus un jeu, mais un jeu avec, pas un jeu contre, et pas un jeu avec de trop de distance. C'est pas un jeu ironique. C'est un jeu franc, quoi, amical avec ça.
Alors pour être un peu plus, enfin pour plonger un peu plus donc dans l'univers de faillir être flingué, même si je, enfin en ayant le livre, ma question va être difficile, mais est-ce que vous pourriez pas nous le résumer, mais nous en dire quelques mots? Comment vous pourriez parler de ce roman sans trop en dévoiler non plus?
C'est un roman de prairie en fait. Je pense que plus qu'un western, c'est un roman de prairie et c'est vraiment d'abord de la littérature et après du western. Et je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la cartographie lorsqu'elle n'est pas encore posée sur du papier ou du parchemin et qu'elle est flottante. C'est quelque chose qui a à voir avec une cartographie qui serait orale et un territoire qui se construit par les cheminements des individus. Pas des masses, des individus et des animaux individués. Et en fait, ces croisements, ils convergent pas, mais ils vont se faire, se rassembler ou se focaliser dans un endroit qui finalement va devenir, enfin, est déjà l'amorce d'une ville et va continuer à s'amorcer en tant que ville. Voilà. Mais peut-être c'est une histoire de si on veut bien en parler très généralement, une histoire de rencontres effectuées ou de rencontres à contre-temps ou de rencontres au bon tempo, de rencontres évitées aussi, et puis de comment se maille le début d'une communauté ou un ensemble de rapports interindividuels qui va faire une ville.
Et justement, donc, comme vous dites, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres dans ce livre, donc beaucoup de personnages. Et ouais, bon, alors moi, je dois vous avouer, je l'ai lu une fois et demie, en fait, votre roman, une fois normalement, j'ai envie de dire, et une deuxième fois où, en fait, donc à chaque début de chapitre, on découvre un personnage ou on le redécouvre plus tard. Et j'ai essayé, en fait, donc de sauter à chaque fois des chapitres pour suivre l'histoire à part entière d'un seul personnage, ce qui est possible de faire, mais juste comme on va dire la moitié du livre, quand bien entendu ils se retrouvent tous dans cette ville qui va être construite. Et je me demandais un petit peu comment vous aviez construit votre histoire, c'est-à-dire est-ce que vous avez imaginé l'histoire de chacun des personnages ou enfin comment vous l'avez construit en fait. C'est une question que je me suis posée, la première question que je crois que je me suis posée à la lecture.
Oui, mais alors c'est toujours compliqué de répondre à ça parce que moi j'écris un mot après l'autre, une ligne après l'autre et un chapitre après l'autre et que j'ai jamais de plan déjà voilà, c'est pas prévu. Par contre, quand je commence la rédaction d'un livre, je sais qu'il est là, je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Mais bon, après c'est assez mystérieux, parce que c'est assez ouvert. Je crois que je l'ai construit vraiment en posant chacun des personnages à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit, et en les faisant bouger. Et pas bouger comme ça pour rien, mais enfin bouger des fois pour des petites choses. Il y a des petits déclics de mouvement, comme il y a des petites rencontres ou des indices qui sont laissés et qui vont après se retrouver mêlés au récit. Mais ça se tisse en fait assez naturellement, il y a peut-être 8 points d'accroche et puis après ça se tisse aussi avec les choses dont on sait qu'elles rôdent autour ou qu'elles sont pas très loin.
Avec un rythme j'imagine différent pour chacun des personnages, d'ailleurs le rythme est assez, enfin quelque chose de très important dans ce livre, enfin dans le sens où dès les premières pages, donc on nous annonce un peu la couleur, puisqu'il y a ce chariot qui est tiré par des bœufs de façon très lente. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que vous arrivez donc avec une lenteur et parfois, au contraire, quelque chose de très rapide avec des fusillades. Comment, enfin, quel est le plus difficile en fait? Ce sont à écrire en tout cas. Donc, ce sont ces lentes, ces en description. Vous avez le temps de vous poser ou au contraire, c'est l'action quoi. Enfin.
Je crois que c'est l'action le plus difficile parce que c'est à la fois le plus simple, c'est la chose la plus simple qu'on devrait voir la plus clairement, mais en même temps, justement, il faut là. Ce qui a de compliqué dans une scène d'action, c'est que justement on passe à la ligne, nous, c'est pas du film, hein, c'est pas de l'image. Donc c'est il y a rien de simultané. S'il y a un machin qui tire en même temps que l'autre commence à amorcer son coup de poing sur la tête de Bidule et l'autre commence à lever la table pour la fracasser sur le bas, à l'image c'est simultané. En littérature ça ne l'est pas. Ou ça fait semblant de ne pas l'être. Donc après c'est le cerveau qui fait évidemment. Enfin c'est le cerveau. C'est l'esprit, c'est, je sais pas ce que c'est. C'est nous qui faisons que la ligne qui va à la ligne et qui fait les choses les unes après les autres, finalement fait tout ensemble. Mais ça, c'est magique. Et ça, c'est pas évident à faire. Parce qu'il faut à la fois être très précis et très global. Mais c'est très excitant, par contre. Moi, j'aime beaucoup les scènes d'action à cause de ce défi de la simultanéité. Je pense que c'est un des défis de la littérature aussi. Rendre le mouvement, c'est quelque chose de très compliqué. Mais il y a des acteurs qui disent on peut tout jouer, les grands drames et tout ça, mais ce qui est très compliqué, c'est d'ouvrir une porte et de la refermer. Derrière soi, voilà, par exemple. Et ben, je crois que c'est un peu équivalent avec les scènes d'action où il faut qu'il passe aussi quelque chose dans le mouvement, parce que c'est pas seulement le fait de le faire, mais ça peut être l'intention, ou ça peut être l'intensité, ou ça peut être le but, et puis on peut se tromper sur le but. Enfin, voilà, il faut aussi brouiller deux, trois pistes tout en étant très précis. Mais c'est très intéressant, ça.
Justement, est-ce que vous imaginez qu'un jour, Faillir être flingué pourrait être à l'écran? Vous n'êtes pas posé la question?
Pas vraiment, non. Mais j'ai des rapports assez ambigus avec le cinéma et je trouve que c'est un art très dépensier. Et puis en plus, il faut se mettre dans une boîte noire pour le regarder. C'est très contraignant, là, pour le coup. On est assis sur des chaises, des sièges spéciaux. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup de technique. Alors que, bon, un livre, voilà. À partir du moment où il y a de la lumière. Et je trouve que les images sont plus. Enfin bon, pourquoi pas, hein, mais il faudrait un grand cinéaste.
Oui, c'est sûr. On pensait à Tavernier tout à l'heure.
Ah bah c'est pas mal.
Ça vous va? On va lui proposer. Pour revenir un petit peu sur les personnages, il y a énormément de personnages féminins dans votre roman. Est-ce que c'était pas difficile de les faire vivre dans un univers qui est quand même très masculin?
Pas non, parce que mes personnages féminins, ils sont libres en fait. Et j'ai mis tout le monde sur le même pied, c'est-à-dire dans la prairie, dans les herbes, les hommes, les animaux, les chevaux, les hommes et les femmes. Et que chacun est là aussi par soi-même et par son propre mouvement. Il n'y a pas de. Je pense que même les putes du saloon sont arrivées là parce qu'elles ont fait ce voyage jusque-là et qu'il n'est pas évident à faire. C'est pas les circonstances qui l'ont fait pour elles. Et tout le monde est là avec sa volonté, son désir de liberté ou de reconstruction ou de changement ou de continuité. En tout cas, quand même avec le désir, je pense, de se frotter à quelque chose d'autre. Que ce qu'ils ont déjà vécu. Et à partir de là, non, mais moi, je suppose toujours les femmes aussi libres que les hommes. Enfin, ça m'est tout naturel. Hein. Donc, dans mon livre, c'est pareil. Et il n'y a aucune raison que ce ne le soit pas.
Et qu'ils soient hommes ou femmes, est-ce que vous vous êtes attaché ou est-ce que vous comment dire, est-ce qu'il y a un personnage que vous avez préféré écrire plus qu'un autre?
Préféré écrire. Je les aime tous. De toute façon, j'aime toujours tous mes personnages. C'est d'ailleurs un problème des fois. Et puis là, il fallait quand même. Enfin bon, bref. Je les aime bien. Mais c'est vrai que Guy Ford, il a peut-être un peu ma préférence parce qu'il est presque plus articulé en inversion lointaine que les autres. Mais encore que je suis pas sûre que ce soit ça, mais il est Voilà, c'est un toubib, enfin c'est un médecin qui est donc frotté de culture grecque aussi, et puis qui débarque aux États-Unis, enfin non pas aux États-Unis, mais qui débarque en Amérique en pensant, enfin en voulant rencontrer les Indiens et en pensant les soigner ou du moins les prémunir contre les virus des Blancs, et qui en fait fait une erreur monumentale et tue tout un village et qui ne s'en remet pas. Et à partir de là, enfin lui, on a sa conversion complète en fait. Il arrive sûr de lui et sûr de son savoir et du savoir de ses pères, et il en est complètement retourné, puisqu'à partir du moment où il fait cette erreur et où tout le village meurt, il dit qu'il arrête complètement la médecine, qui n'est pas une science, et il se perd, lui, dans la forêt, mais dans la prairie. Mais il y a Okikour sur la plaine, la chamane, qui le récupère et qui le convertit en quelque sorte, qui le ramène à la vie, qui lui apprend à manger des œufs, à manger des oiseaux, à se déplacer dans cet environnement et à boire, à observer et à tout retrouver autrement. Et il retrouve tout autrement. Donc là, il y a vraiment une conversion. Et il va quand même en ville, dans cette ville naissante. Et donc c'est un personnage complexe. Et lui va commencer en fait à la carrière d'Aubudon, en gros. C'est ça. Et il va commencer donc à dessiner, à se prendre de passion pour les oiseaux et à devenir un ornithologue averti. Et je pense que lui, là, et puis il porte une superbe cape de pluie en feuilles luisantes qui fait comme ça. Et il construit une maison en bouteille. Donc, oui. C'est un personnage assez.
C'est drôle, on pourrait peut-être. Vous voulez pas qu'on crée un compte Facebook, comme ça chacun vote pour son personnage favori.
Je suis pas très Facebook, ouais.
C'est bizarre. Non, mais... Oui, je voulais en revenir donc à tous ces personnages. On parlait de Gifford, donc qui va s'avancer dans cette ville et qui va y arriver sans l'avoir vraiment voulu. Et on a l'impression que c'est à peu près ce que font tous ces personnages. En fait, ils avancent vers quoi ils avancent au final?
Eh oui, c'est très hasardeux. Il y a quelque chose là de la destinée humaine qui est très liée à la contingence. Et je pense que c'est presque le terrain qui les y emmène dans cette ville, parce qu'effectivement c'est pas une ville de l'or, c'est pas une ville du minerai, c'est pas une ville de gisement, c'est une ville champignon qui n'a pas de raison et elle n'est pas légitime. Et je pense que c'est quelque chose comme une utopie non dite, quoi. Et c'est comme la prairie ou la rivière ou les montagnes qui amènent chacun à cet endroit où il y a déjà une presque rue. Et c'était quoi la question?
Vers quoi ces personnages s'avancent?
Oui. Et ils s'avancent vers ça qui est peut-être en fait une idée d'une communauté humaine qui serait pas de l'ordre de la famille, qui serait pas de l'ordre de la ville vraiment, qui est pas du tout de l'ordre de l'État, et où il n'y a pas de loi déjà posée, où il n'y a pas de shérif, effectivement, il n'y a pas de loi, mais il y a des règles qui se font en même temps que la ville se fait, et tous les rapports interindividuels s'équilibrent, enfin se centre-équilibrent. Et je pense que c'était aussi ça mon envie de partir d'une ville très très récente, c'est-à-dire où rien n'est prévu non plus et rien n'est pré-réglé. Et il y a quelque chose qui est toujours en train de se décider, ça se décide au jour le jour et ça se décide parfois par des toutes petites choses. Et on est toujours dans les toutes petites choses. Je veux dire, dans tout le livre, il y a des bottes, il y a un couteau, tous les objets sont absolument essentiels, ou vitaux, ou luxueux, artistiques. Mais il n'y a pas d'objet moyen, il n'y a pas d'objet de consommation en fait. Il y a ou de la nourriture, ou les objets qui permettent de se nourrir, ou une peinture, un oreiller en plumes, orné de perles, des choses comme ça. Et je pense que c'était ça de mon envie, c'était certainement de capter un moment de quelque chose avant que ça se crispe et se cristallise et se définisse réellement. Tout est assez trouble là, La circulation en ville, elle est comme la circulation dans la prairie, elle part dans tous les sens. Même si c'est juste évidemment la, la rue principale et qu'il n'y a rien d'autre, justement, tout est très ouvert. Et je pense que c'était ça, à la fois les rapports interindividuels très ouverts et pas prédéfinis, même si, évidemment, tous arrivent avec leur histoire et leurs réflexes, mais ils s'en sont beaucoup débarrassés quand même avant. Et parce que c'est justement ça, l'épreuve ou la traversée de la prairie, ça, c'est quelque chose comme ça qui fait que tous les personnages sont super vigilants aux autres, parce qu'il en va de leur survie, mais en même temps, ils sont jamais fermés, parce que ça, là aussi, il en va de leur survie. Voilà.
Et avec justement tous ces personnages qui composent cette ville, est-ce que vous imaginez que... Est-ce que vous pensez que cette ville a une chance de perdurer ? Enfin, est-ce qu'elle pourrait même exister encore aujourd'hui, enfin, en ayant eu toute son évolution, bien évidemment ? Ou est-ce qu'elle est condamnée un petit peu
Je dirais que cette ville n'existe plus, évidemment, parce que sous cette forme-là, et c'est celle qui m'intéresse, cette ville, si elle n'a pas été rasée par je ne sais pas quoi, elle, ou désertée, peut-être aussi, elle s'est forcément, justement, structurée. Et voilà, le shérif, là, il arrive et il dégage, mais il finira par s'installer, comme dans le reste... de ce qui deviendrait les États-Unis. Donc non, cette ville n'existe pas et c'est une pure utopie.
Pas de Faillir et Flinguer 2. Donc le retour ou le...
non, je crois pas. Non.
Et justement, par rapport à ce titre, Faillir être flingué, comment vous avez trouvé ce titre ?
Ah ben, c'est pas moi qui l'ai trouvé, donc ça c'est assez simple.
Voilà.
C'est la plasticienne. Bah ouais, c'est un peu compliqué. Je travaille avec une plasticienne qui s'appelle Scomparo depuis plus de 10 ans. On travaille ensemble de façon très différente. On a fait un livre ensemble, on va en faire un deuxième. Mais moi, j'interviens des fois dans ces installations plastiques comme lectrice ou parleuse. Et elle, parfois, me fait des installations plastiques spécialement pour Bastard Battle. Il y en avait une petite. Très chouette. Et donc, on était toutes les deux en train de chercher, mais de notre côté, autour du western. Et donc, on listait des grands... Enfin, voilà, on listait des grandes actions, quoi, comme voler des chevaux, boire du whisky, planquer dans les rochers, des choses de... Et puis, tout à coup, Faillir être flingué est sorti. Enfin, elle a sorti Faillir être flingué et... dit, mais ça c'est un titre, c'était évidemment un titre, et elle me l'a proposé en partage. Donc c'est le titre de son installation et c'est le titre de mon roman. Je l'ai construit autour du titre, il est venu en premier lui. Et donc c'est notre dernière collaboration en date, et c'est donc une collaboration réduite au titre.
Oui, vous aviez surtout collaboré avec elle pour Les Halles, c'est ça ?
Pas surtout, entre autres, pour Les Halles, mais une de ses installations s'appelle La conquête de la pointe Minard, qui est une pointe en Bretagne. Qui existe. Et donc, autour de cette conquête, c'est génial. Il y a une bataille navale qui est jouée. Moi, je lis une bataille idéale dans laquelle je gagne, évidemment, tout le temps. Mais jusque-là, le jeu de la bataille m'a donné tort. Donc, je vais sûrement réattaquer bientôt. Puis, il y a énormément de pièces plastiques autour. Il y a deux flottes, il y a les paysages, il y a la côte. Et c'est aussi une performance, évidemment. Ça, par exemple. Mais il y a d'autres choses aussi. Et je suis rentrée dans d'autres installations d'elle d'une façon différente. Et voilà.
Et vous allez bientôt recollaborer ?
On va bientôt recollaborer, là, autour du sabre japonais.
Ah. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait de Faillir être flingué ? Oui.
Aucicourt sur la plaine n'avait pas de parents, ils avaient brûlé. Aucicourt sur la plaine n'avait pas de wigwam, ils s'étaient déchirés. Pas de provisions, elles avaient roulé. Pas de pleurs, ils s'étaient asséchés. Aucicourt sur la plaine ne voyait plus ni blanc, ni delaware, ni kikapou, ni cerf, ni loup. Parmi les herbes hautes et drues, elle allait son chemin. Il était lié à la pente, au vent, aux esprits, aux incendies, aux rencontres qu'elle faisait et à celles qu'elle évitait. Son tracé, pour aventureux qu'il paraisse, ne devait rien au hasard. Cette lune, avant d'entendre chanter la mère coyote, elle avait remonté la piste d'un homme blessé. Elle l'avait guetté, jour après jour, elle l'avait suivi, mesurant le degré de son affaiblissement, et elle l'avait atteint. Prostré dans un trou de poussière qu'il avait creusé de ses mains, l'homme l'avait regardé venir, brûlant de fièvre. Tout le temps qu'il avait raclé la terre, il avait parlé, inlassablement, répétant sans cesse la même phrase qui s'était mise à tourner au-dessus de son chapeau, puis de sa tête quand son chapeau était tombé, à tourner comme un essaim de moucherons. Il l'avait dite et redite, jusqu'à ce que ses lèvres craquelées ne puissent plus l'articuler, jusqu'à ce que sa gorge n'émette plus qu'un son rauque, crapu comme un crapaud. Reconnaissant ce bruit, elle avait marché sur lui. Elle tenait son couteau en avançant, sa main était légère sur le manche, mais tout son être était tendu, attentif au moindre souffle. Dans son éloignement, l'homme avait senti sa concentration. C'était un halo, une sphère de chaleur qui approchait résolument, sans heurts ni précipitation. Il avait senti le moment exact où la sphère l'avait pris dans son volume, quand Okikour sur la plaine s'était penché sur son front poudré de poussière et il l'avait noté dans son esprit comme le miracle et l'accomplissement de sa vie. Elle lui avait craché au visage en portant la lame du couteau nu à sa carotide. Le geste avait été si bref qu'il y avait vu sa mort translucide et ses lèvres s'étaient fendues sur un sourire de joie. Elle avait tranché en un éclair les boutons de sa chemise et de ses bretelles, puis elle s'était renfoncée dans les herbes. Elle les avait cousus sur sa longue robe de peau comme un ornement de guerre, chacun orné d'une petite plume de jais. Au crépuscule, elle était passée voir si l'homme vivait. Il vivait. Elle avait ramassé son chapeau et s'était à nouveau engagée dans la prairie. Elle était revenue une seconde fois dans la nuit, portant un bout de bras le chapeau retourné qui débordait d'eau. L'homme avait recouvré ses esprits. Il avait bu comme une bête, en aspirant délicatement le liquide entre ses lèvres douloureuses. Il avait béni la lune qui flottait dans le fond de son couvre-chef. Il avait béni la terre. Il aurait béni l'Indienne si elle n'avait fait en sorte de s'y soustraire.
Et c'est donc le début de l'histoire de Gifford.
Oui.
Une petite question piège, mais on va dire rigolote. Si vous étiez dans un western, vous joueriez quel rôle ?
La rivière.
Celui de la rivière. C'est joli. Donc, cette fois-ci, un western, mais qu'il n'y a pas un style vraiment... Enfin, vous vous inscrivez pas dans une littérature propre. Enfin, vous allez vraiment là où le vent vous porte, ou la rivière coule, j'ai envie de dire, pour parler de rivière.
Oui, plutôt là, oui. Alors, pas un style, ça sûrement pas, non, effectivement. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas si c'est propre, mais c'est sûrement singulier. Je crois, enfin, que ça commence à se dessiner. Mais effectivement, j'ai peut-être pas un rapport à la langue qui serait un rapport d'écrivain normal. J'ai plutôt tendance à considérer que la langue, voilà, est capable de prendre toutes les formes, comme l'eau justement. Enfin, il y a quelque chose, il y a un rapport pour moi qui est évident entre l'élément langage et l'élément à queue. Et parce que c'est très labile, ça peut être voilà, si l'eau gèle, elle est très dure, elle est solide, mais elle peut passer à l'état vaporeux et le liquide, et ça peut être une masse, ça peut être une quelque chose de très infime et de très voilà, mais l'eau, elle passe partout, hein, l'eau voilà, dans les vieux immeubles, on le sait, quand il y a une fuite d'eau quelque part, ça peut descendre et infiltrer tout, et je pense que le langage infiltre et construit notre monde, enfin le monde dans lequel on vit et qu'on respire, qu'on en respire du langage, et comme un poisson dans l'eau, quoi. Et il y a donc j'ai plutôt tendance à considérer que la langue est une matière et j'ai un rapport de plus matériste à la langue que, enfin, effectivement, je suis pas dans un sillon, j'écris pas toujours le même livre, ou peut-être que si, mais d'une façon différente, vraiment différente à chaque fois. Mais après Faillir être flingué, je peux dire n'importe quoi. Pastor Battle peut-être, enfin si vous êtes pas effrayé par le trafic de langage contemporain avec le langage médiéval, sinon le dernier monde, mais c'est pas tout à fait pareil, hein. Mais rien n'est pareil. Selon Louise, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais je les aime tous, hein. C'est comme mes personnages.
Mais justement, enfin, vous êtes donc pas inscrite dans un genre en particulier, on va dire. Vous avez écrit de la science-fiction, de la fantasy.
Non. En fait, j'ai jamais écrit de science-fiction. J'ai toujours refusé qu'on dise du Dernier Monde que c'était de la science-fiction, et c'en est pas. C'est vraiment du roman. Effectivement, c'est un roman d'anticipation et qui démarre dans une station spatiale qui est en orbite, mais ça existe. Hein. Et bon, alors l'anticipation est réelle, mais pour moi, c'est une fiction. C'est pas de la science-fiction. On est vraiment dans le monde humain, et on est justement dans le monde très humain, parce que c'est comme un dernier tour de terre. C'est comme un deuil de l'humanité au monde, dans le monde. Quoi. Ils ont tous disparu. Ils sont tous. Il n'y a plus que les vêtements. Mais le dernier Rome, en fait, fait comme un dernier tour de terre pour réactiver toutes les histoires humaines qu'il peut percevoir ou dont il peut se souvenir à chaque territoire correspondant une certaine tonalité de. Et puis, bon, il fait son chemin là-dedans avec ce poids énorme. Et donc, pour moi, c'est vraiment le contraire de la science-fiction, parce qu'on n'est pas dans le, il y a pas d'extraterrestres, il y a pas ce genre de choses, quoi. On est vraiment dans le monde, dans la mémoire collective humaine.
Après, donc, vous êtes quand même inscrite dans une sorte de littérature de l'imaginaire, en tout cas.
Oui, ça,
et ça
oui.
C'est ce que je trouve, enfin, vraiment assez formidable, puisque beaucoup ont tendance à de dire de façon un petit peu péjorative que la littérature de l'imaginaire n'est jamais bien écrite. Et là, vous prouvez le contraire, et vraiment, ça fait du bien. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Quoi. C'est toujours inattendu et toujours superbement écrit.
Merci.
Et donc maintenant, quels sont vos projets, avec ce qu'on paraît ou pas?
Oui, ben il y a ce livre de sabre japonais qui est très 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 en cours. Voilà. Après, je ne dirai rien.
Vous avez bien raison. Et une dernière question, c'est donc votre premier livre donc aux éditions Rivage. Vous êtes passé donc pas mal par beaucoup d'éditeurs. Est-ce que vous allez rester chez Rivage ou est-ce que vous, c'est pas encore fixé?
Bon, alors mon éditrice est juste là à côté, donc. Alors d'abord, je ne suis pas passée par beaucoup d'éditeurs. Je suis restée chez De Noël assez longuement. J'ai fait une petite boucle par Léo Cher avec la première édition de Bastard Battle. Et oui, et Les Halles chez Cambourakis. Mais ça, c'est comme Les Halles, c'est des livres assez particuliers aussi. Est-ce que les éditeurs veulent de tous les textes? Ce n'est pas toujours le cas. De Noël n'a pas voulu de Bastard Battle. Bon, après, ils en voulaient, mais moi...
Ah. Oui.
Et donc, il y a des choses qui se font aussi comme ça. Enfin, mais moi, je suis assez fidèle dans l'esprit, mais voilà, faut que les choses se passent bien, et tant que les choses se passent bien, mais voilà, c'est très bien, tout va bien. Après, ça fait pas de mal de bouger aussi de temps en temps.
J'imagine. Et qu'en est-il? Qu'en est-il de votre premier roman qu'a priori on ne trouve que sur Internet à 300 euros.
Wow. 300 euros.
A priori, un exemplaire à 300 euros.
Est-ce c'est dommage qu'il m'en reste pas une caisse. Eh ben, je sais pas. Ça fait quelques années maintenant que j'entends il faudrait rééditer tout ça, et puis j'ai envie de le laisser. Sans un fantasme de... Je sais pas. Je sais pas. Après, en même temps, quand je le relis, je me dis, ah, il faudrait faire ci, faire ça, puis j'ai pas envie, puis j'aime pas trop rebrousser chemin. On verra. Mais en tout cas, moi-même, j'en ai plus qu'un.
Sinon, c'est bientôt Noël. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas.
Merci à vous.